les débats de Radio Accor, animés par Marc Taillebois.
Bienvenue, chers auditeurs, pour ce nouveau débat de Radio Accor. Ce soir, nous vous proposons de réfléchir sur le thème « Où en est l'humanitaire aujourd'hui ?». Et pour réfléchir avec nous pour ce débat, j'ai trois invités sur le plateau. Tout d'abord, Denis Viennot, qui est ancien président de Caritas Internationalis, auteur d'un livre récent « La justice dans la peau, géopolitique de l'action humanitaire » aux éditions Des Clés de Brouwer. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être là. J'ai Franck Renaudin, qui est responsable de l'ONG Entrepreneurs du Monde, une ONG poitevine connue d'un certain nombre d'auditeurs. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci aussi d'être là. Et puis Philippe Lagrange, qui est professeur à l'Université de droit de Poitiers. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, tous les trois, vous avez des points de vue complémentaires justement sur ce thème de l'humanitaire. Alors je vais vous demander peut-être, pour mieux faire connaissance avec les auditeurs, de dire peut-être un petit mot pour vous situer personnellement et professionnellement par rapport à ce sujet. Denis Viennot.
Écoutez, actuellement, moi j'interviens dans des pays d'Europe de l'Est et du Sud pour aider des organisations Caritas, des secours catholiques disons, à préciser leur stratégie, leurs priorités, leur mode d'organisation, l'évolution moderne de leurs réponses. Et c'est vrai qu'avant, j'ai été président de Caritas Internationalis et de Caritas Europa, et pendant 7-8 ans, secrétaire général du Secours catholique.
Voilà, donc différentes responsabilités dans les grands réseaux caritatifs chrétiens, à la fois en France, puis à l'international.
Absolument, réseau, absolument.
Voilà, on va parler justement des réseaux tout à l'heure, hein, et de l'enjeu des réseaux. Franck Renaudin.
Oui, alors moi j'ai travaillé 4 ans dans le monde de l'entreprise après une école de commerce et puis depuis une vingtaine d'années je travaille dans le milieu du développement et j'ai fondé Entrepreneurs du Monde en 98 avec l'idée d'appuyer les initiatives économiques dans les pays en voie de développement pour les personnes notamment qui n'ont pas accès aux banques et aux capitaux, l'idée étant donc de leur prêter des petites sommes d'argent pour développer une activité avec beaucoup d'accompagnement, de suivi, de formation de ces emprunteurs. Donc c'est ce qu'on appelle le microcrédit, la microfinance.
D'accord, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis donc, Philippe Lagrange.
Eh bien moi, mon engagement humanitaire reste très théorique par rapport aux deux autres invités. Cela dit, j'ai exercé dans le secteur humanitaire en tant qu'étudiant, eu quelques missions avec d'autres collègues. Et puis, je me suis spécialisé très rapidement sur le droit du maintien de la paix et de la sécurité internationale, notamment l'action de l'ONU. J'ai fait ma thèse sur cette question-là et aujourd'hui, je travaille beaucoup plus sur toutes les questions de droit international humanitaire. J'ai notamment publié un ouvrage à la découverte sur cette question avec le professeur Patricia Burette. Et j'enseigne le droit international humanitaire à la faculté de droit de Poitiers. Je l'ai également enseigné longtemps dans le DESS de droit international humanitaire de l'université d'Évry-Val-d'Essonne, où j'ai été en poste un petit peu de temps. J'interviens aussi pour des ONG, puisque j'enseigne le droit international humanitaire sur un tout petit module de 4 heures à une organisation qui s'appelle Architectes sans frontières.
Très bien. Voilà, beaucoup de choses intéressantes qui vont nous permettre d'approfondir aussi la dimension juridique de l'humanitaire aujourd'hui. Alors, peut-être pour commencer, pour entrer un peu dans la thématique, peut-être redire ce que c'est que l'humanitaire. Qu'est-ce qu'on entend derrière ce mot? Évidemment, on a tous des images vraies ou fausses. On voit Bernard Kouchner avec son sac sur le dos en train d'intervenir. On peut penser évidemment à des catastrophes qui font appel à des grandes campagnes de communication, le tsunami Haïti récemment. Mais au fond, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être demander justement aux juristes? Quelle définition on pourrait donner à ce mot humanitaire et à cette action?
Alors, si on parle de l'action humanitaire, c'est vrai que là, on va toucher très rapidement à l'action des organisations non gouvernementales, hein, par opposition à l'action des organisations gouvernementales ou intergouvernementales et à l'action des États. Ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas complémentaires, hein. Mais l'action humanitaire, le droit de l'action humanitaire aujourd'hui est plus un droit qui concerne ces nouveaux acteurs, puisqu'ils sont relativement récents, que sont les organisations non gouvernementales. En revanche, si on parle de droit international humanitaire, stricto sensu, le droit international humanitaire, il est né dans un cadre bien précis qui est le droit des conflits armés. dans le cadre de guerres interétatiques par l'action d'Henri Dunant, qui a créé la première organisation non gouvernementale à se préoccuper des secours humanitaires, mais toujours dans ce cadre bien précis, la Croix-Rouge. Et quelque part, les ONG, les organisations non gouvernementales qui font de l'humanitaire aujourd'hui sont nées très souvent en réaction à la Croix-Rouge, et notamment aux principes qui guidaient l'action de la Croix-Rouge, notamment le principe de neutralité. La plupart des organisations non gouvernementales qui interviennent dans le domaine humanitaire ont souhaité se démarquer de ce principe, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler.
Alors, Denis Viennot, dans le livre que vous avez préparé il y a quelques temps, dans l'introduction en tout cas, il y a aussi une description un petit peu de phase, de période dans l'humanitaire. Alors effectivement, comme le disait Philippe Lagrange, ça commence avec Henri Dunant et la Croix-Rouge en réaction au conflit, mais ensuite il va y avoir toute une gamme dans le temps avec les ONG, avec le développement, et notamment le Secours catholique va développer une action internationale. Alors est-ce qu'on peut dire un petit peu comment il a évolué cet humanitaire depuis Henri Dunant jusqu'à aujourd'hui, en quelques mots évidemment.
Oui, non, je crois qu'en effet il a des, comment dire, on peut dire qu'il est né, si on commence la vie avec Henri Dunant, à la bataille de Solferino, peut soigner le blessé. On a ensuite, je dirais, un effet millefeuille d'initiatives basées sur des valeurs différentes qui se sont accumulées au fil des années. On a eu la phase, par exemple, du Biafra, des gens auxquels les principes de la Croix-Rouge ont posé question, en effet, le principe de neutralité. Et puis, on a eu la phase des gens qui sont engagés dans le développement. On a eu la phase à mélanger avec du médical et du social. Je crois que Philippe Lagrange dit bien ce que je veux dire. C'est-à-dire, finalement, il y a deux choses quand on parle de l'humanitaire. Il y a la vue d'aujourd'hui. Il y a le droit international, tel qu'il est, et qui évolue. Certains ont essayé de le faire évoluer, ça ne marche pas toujours aussi facilement. Et puis, il y a ce mot humanitaire qui est un mot un peu attrape-tout, il faut faire attention. A priori, on pourrait dire, pour le grand public, humanitaire, ça veut dire tremblement de terre en Haïti, mais ça veut dire finalement beaucoup plus que ça. Il y a même, je me rappelle au moment de la guerre des Balkans, il y a M. Blair qui a osé parler de guerre humanitaire. Alors, quand un chef d'État parle de guerre humanitaire, on ne sait plus où on est. Il faut faire vraiment très attention. Je crois qu'on peut dire, à mon avis, de façon simple, qu'il y a l'humanitaire, c'est aujourd'hui le processus urgence auquel on va rajouter réhabilitation, développement dans la durée. Donc c'est plus simplement le prisonnier de guerre, mais il ne faut surtout pas oublier le prisonnier de guerre et le rôle par exemple du comité international de la Croix-Rouge aujourd'hui. Là, il y a une protection. D'autant ce droit, il bouge aussi. Ça sera intéressant d'en parler parce que il est né pour la guerre. Or, aujourd'hui, les guerres tuent des civils. Les guerres tuent très peu de militaires et tuent beaucoup de civils. Donc, il faudrait aussi parler des droits des civils en situation de guerre.
Alors, est-ce qu'on peut faire une petite précision dans le vocabulaire entre ce qui concerne l'urgence, les secours d'urgence, ce qui est de leur domaine, et peut-être Entrepreneur du Monde nous en dira un mot, l'accompagnement vers un développement, hein, donc c'est consolider, disons, des lieux de fragilité pour que ça aille mieux, et puis aussi tout le travail du plaidoyer, oui, qui est encore un autre volet de l'humanitaire. Est-ce qu'on veut clarifier ces trois notions ?
Alors moi je commence par le dernier, par le plaidoyer. C'est vrai qu'une des grandes évolutions selon moi des 20 dernières années, c'est que des organisations comme le réseau Caritas, en s'engageant dans le plaidoyer ça veut dire l'action politique, c'est-à-dire finalement s'il y a des SDF à Poitiers, pourquoi il y en a, s'il y a des réfugiés en Birmanie, pourquoi il y en a, donc essayer de regarder les causes de la pauvreté, les causes des déplacements de population, les causes des souffrances, et ne pas rester silencieux. Alors c'est tout un débat, faut-il parler, faut-il se taire? En Éthiopie aujourd'hui, ça a été très compliqué au moment des élections, puisqu'on a des élections en Éthiopie qui font 100% de vote en faveur du régime. On ne fera pas croire que tout le monde a voté à 100% pour le régime. Donc, les organisations, les Nations Unies, les États vont parler ou ils vont se taire. Et je pense que là, cette émergence, je dirais, cette légitimation de l'intégration d'une vision politique à l'action humanitaire, elle est, je crois, fondamentale pour venir en complément de se vêtir, se nourrir, se loger. Oui, mais dans la durée, qu'est-ce qui fait que les choses ne vont pas se reproduire, etc. Donc il y a une fonction de prévention, d'alerte des responsables politiques nationaux ou internationaux.
Ça, c'est la dimension du plaidoyer. La dimension de l'urgence, c'est d'intervenir dans un théâtre d'opération, de guerre ou de catastrophe naturelle, c'est ça?
Oui, alors vous avez raison. Il y a l'urgence tremblement de terre, cause naturelle, il y a l'urgence guerre civile, du fait de l'homme. Il y a certainement entre les deux aujourd'hui l'urgence climatique qui va certainement augmenter, qui est à la fois à raison naturelle et à raison humaine. Et face à ça, les réponses ne sont pas forcément les mêmes. Si je prends l'exemple de la participation des armées, c'est un grand sujet pour l'humanité aujourd'hui, on peut peut-être estimer, et encore je mets beaucoup de bémols, que les armées ont une certaine légitimité, entre guillemets, deux fois, à intervenir quand on est face à une situation de crise climatique, de crise naturelle, tremblement de terre. Autant l'intervention des armées qui font de l'humanité en Afghanistan aujourd'hui, c'est quand même extrêmement, extrêmement problématique.
Voilà. Et puis donc la dernière partie, c'est la dimension plus du développement, de l'accompagnement, un peu dans la durée. Alors je pense, Franck Renaudin, vous êtes plutôt, j'imagine, situé de ce côté-là avec l'ONG Entrepreneurs du Monde.
Oui, on est clairement, on se qualifie d'ailleurs, hein, on parle peu, on dit rarement qu'on travaille dans l'humanitaire, on parle plutôt du développement. Et l'action d'Entrepreneurs du Monde, effectivement, est une action de développement dans le sens où le principe est d'aider des familles vivant dans des conditions de grande précarité à améliorer leurs conditions de vie, leurs revenus en l'occurrence pour ce qui nous concerne. On est dans un travail vraiment dans la durée qui s'inscrit avec des partenaires locaux et en ce sens, on est différent des urgentistes. Néanmoins, on peut être parfois rattrapé par la réalité. Et quand on travaille typiquement en Haïti, dans des quartiers très pauvres de Port-au-Prince, et qu'arrive un tremblement de terre, là, bah, même sous la pression des bailleurs de fonds ou des partenaires, on peut être amené à faire des actions, je dirais, du post-urgence. Hein. Ce n'est pas de l'urgence au sens de Médecins sans frontières ou de Handicap international, mais on se situe vraiment à la limite de l'urgence.
Alors concrètement, puisque vous êtes présent en Haïti avec votre organisation, qu'est-ce que vous avez eu à gérer ces derniers mois ?
Là, concrètement, on s'est retrouvé à développer des programmes de cash for work. On est dans des quartiers, des bidonvilles de Port-au-Prince où il y a très peu d'acteurs, notamment le grand bidonville de Cité-Soleil qui est plus connu pour ses problèmes de sécurité qu'autre chose. Et dans lequel il y avait extrêmement peu d'opérateurs avant le séisme. Donc là, on a eu des demandes de la part d'agences des Nations Unies de développer des activités de cash for work pour de mettre les gens au travail contre rémunération. Ou alors typiquement en Haïti, on se retrouve à développer là, des programmes psychosociaux, vu l'ampleur des dégâts au niveau des habitants des quartiers, de nos familles bénéficiaires de crédit. Et on se dit qu'aujourd'hui, si on ne traite pas ces questions-là, c'est pas la peine de vouloir remettre les gens au travail dans la durée. Il y a un problème d'abord énorme à résoudre par rapport au séisme et on se retrouve du coup un petit peu confronté à ce type de demandes très, très importantes du terrain. Oui.
Alors simplement aussi, on peut dire que votre ONG a fait le choix d'être présente de manière ciblée à quelques endroits dans le monde.
Oui, complètement, oui, on n'est pas partout. Enfin, on travaille dans 9 pays en voie de développement, en Asie, en Afrique de l'Ouest et en Haïti. Et dans ces pays-là, on est généralement plutôt dans des grandes villes, plutôt dans les bidonvilles de grandes villes, mais on travaille aussi de plus en plus en milieu rural maintenant.
D'accord. Alors, de l'autre côté, je dirais, du spectre des organisations non gouvernementales, il y a la logique du réseau. Et le réseau Caritas ou les Caritas, parce que c'est un ensemble, est-ce qu'on peut dire un mot de ce système de réseau, de la force, des caractéristiques du réseau ?
Oui, il y a quelques organisations dans le monde qui sont organisées en réseau comme ça. Et d'ailleurs, d'autres veulent se développer en réseau. Oxfam, l'organisation d'origine britannique, s'est donné pour objectif dans les 6-7 ans qui viennent d'avoir créé un réseau d'antennes dans une trentaine de pays du monde. Un réseau comme le réseau Caritas, bon, c'est disons pour faire clair, il s'agit d'organisations du genre du Secours catholique, mais le Secours catholique, il est français. Donc on va trouver dans d'autres pays des organisations de l'Église catholique, créées par l'Église catholique, mais qui ont, je dirais, une articulation avec la société qui est différente. En Allemagne, la Caritas, c'est 500 000 salariés. Parce qu'on est en Allemagne et qu'en Allemagne, la quasi-totalité du système médico-social est gérée par les catholiques, les protestants, les juifs, les syndicats et les partis politiques. Donc, selon les pays, les choses vont être articulées de façon très différente. Aux États-Unis, encore de façon différente. Donc un réseau, c'est des gens qui ont les mêmes valeurs, qui sont unis pour un centre d'action commune, mais chacun avec sa mentalité. C'est ça qui est difficile dans un réseau, c'est qu'il faut vivre ensemble des gens qui ont des mentalités différentes. Moi, je fais très attention à la culture locale, aussi bien des Allemands que des gens du Bangladesh. Et c'est, je dirais, dans la vie d'un réseau, extrêmement important de voir comment, à partir de valeurs communes, il va y avoir des actions je dirais, visant des populations avec efficacité. Le réseau Caritas aujourd'hui, c'est 165 membres dans le monde entier. Ça couvre grosso modo le monde entier, sauf 2-3 petits pays de la péninsule arabique, mais ça va se faire dans les années qui viennent. L'Afghanistan, où il n'y a jamais eu un seul catholique d'origine chrétien, pardon, afghan, ça n'existe pas. Par contre, on travaille en Afghanistan avec 2-3 organisations américaines, allemandes et italiennes. Le gros trou, c'est la Chine aujourd'hui, même si en Chine, pullule, au sens positif et agréable du mot pulluler, au plan local, diocésain, régional, des organisations sociales catholiques et protestantes, qui forcément, à 20 ans, se fédéreront dans un truc national. Mais voilà ce que c'est qu'un réseau. C'est des situations extrêmement différentes, consolidées comme en France ou en essence comme en Chine.
D'accord. Alors, justement, ces ONG, Philippe, ces ONG et les États, comment ça s'articule, Philippe Lagrange, comment ça s'articule? Est-ce que c'est légitime que des associations non gouvernementales viennent agir dans des pays comme ça?
Ah, alors là est la question essentielle et centrale sur toute la question, tout ce débat de l'action humanitaire. Pour répondre très clairement, légitime, sans aucun doute, licite, c'est une autre histoire, c'est-à-dire légal, mais en droit légal, international, on ne parle pas de légal, il n'y a pas de loi, on utilise le terme licite. Le problème central tient à ce qu'on appelle la souveraineté de l'État.
C'est ça, bien sûr.
L'État est souverain sur sa population et son territoire, c'est-à-dire qu'il n'est nullement obligé d'accepter l'action d'organisation quelle qu'elle soit. Et il faut le savoir, il y a des parties de la planète où le besoin est réel et où il n'y a pas d'organisation non gouvernementale. Quelques agences de l'Organisation des Nations Unies, qui est une organisation intergouvernementale composée d'États et qui agit au nom et pour le compte des États. Mais je pense par exemple à la Corée du Nord. La Corée du Nord, il y a une opposition des autorités nord-coréennes pour qu'il y ait quelque agence que ce soit et quelques organisations non gouvernementales qui interviennent. L'exemple typique a été aussi le cyclone Nargis, où là, on s'est retrouvé avec un État qui avait des besoins réels sur le plan humanitaire, dans l'urgence, et qui s'est opposé à l'action de quelque organisation non gouvernementale que ce soit. Alors pourquoi ? En droit, il était en droit de le faire, il est encore souverain par rapport à ces questions-là, même s'il y a tout un débat théorique sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir, avec dans un premier temps cette idée d'ingérence humanitaire qui a été portée par Bernard Kouchner, qu'il avait mis en œuvre avec ce qu'on a appelé les French Doctors au Biafra, ça a été évoqué par M. Viennot, puis par la suite en Afghanistan. Aujourd'hui, on n'est plus vraiment dans cette idée d'ingérence humanitaire parce que c'était un peu brutal pour les États. Aujourd'hui, on a développé, et quand je dis on, c'est les Nations Unies et notamment une commission canadienne qui avait été créée pour la question. On a développé le concept de responsabilité de protéger. Pour faire simple, l'État est responsable au premier chef de sa population, mais il est responsable de la protéger. Et s'il n'y arrive pas, ou s'il ne veut pas, ou s'il ne peut pas la protéger, il doit laisser la place à la collectivité, à la communauté internationale. Pas à des États pris isolément, pas à des organisations non gouvernementales prises isolément, mais à une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui là aussi, à défaut d'être totalement légitime, est le seul organe qui peut, en droit, prendre une décision de ce type. Et le Conseil de sécurité pourrait lui imposer une intervention humanitaire avec des organisations non gouvernementales, avec des États, avec des agences internationales. Mais on retrouve là un débat qui a été aussi évoqué par M. Viennot. Est-ce que cet humanitaire privé, entre guillemets, c'est-à-dire développé par des initiatives privées, et là aussi il faudra revenir sur cet aspect-là, c'est absolument essentiel, c'est que l'action humanitaire sur la planète, pour l'essentiel, est le fait d'initiatives privées, même si l'ONU intervient avec ses agences. Est-ce que cette initiative privée a à gagner à être accompagné par le militaire, à être accompagné par les États, oui, sur le plan de la légitimité précisément.
Ça, je pense que ça, on verra ça dans la seconde partie. Vous vouliez ajouter un mot sur cette question de l'articulation.
Philippe Lagrange a tout à fait raison. En termes de réseau, on est avec un réseau de gens du pays. Nous, on a des actions en Corée du Nord. Sans les Coréens du Nord, ça, c'est pas possible. Par contre, en Birmanie, on a une Caritas birmane et l'église de Birmanie, elle a eu du mal, mais elle a fini par faire accepter une participation des soutiens étrangers de notre réseau. Donc un réseau de gens du pays, c'est hyper important, non seulement dans Caritas, mais aussi parce que je crois qu'une de nos fonctions, c'est au-delà de ce réseau de chrétiens, de contribuer à développer une société civile qui participe aux phénomènes démocratiques locaux dans ces pays du Sud ou d'Europe de l'Est. Et la montée d'une société civile, c'est une façon de créer de l'humanitaire local et pas de l'humanitaire exporté.
Ça, c'est une question et on sait que dans l'histoire, il y a eu beaucoup de questions là-dessus. On va faire la pause musicale un instant. On Ichiban. Mrs. Tin Can, I'm your candy handyman. Me without shoes, like American without the band. Stand, cool fellow, dance all stay mellow. All that gun talk, who would've thought you'd die yellow? Damn, another hero wanna be. Now he sleeps with his friends in the mortuary. Dude, I find it rude when you intrude. My piston nozzle, it's your nasal dude who comes out your anal just because you're buff. Don't play tough, cause I'll reverse the earth and turn your flesh back to dust. Ooh la la la, it's the way that we rock when we're doing our thing. Ooh la la la, it's that natural light that the refugees bring. Ooh la 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 la. Sweet thing. Shalom alaikum. Nous reprenons donc le cours de ce débat sur la question où en est l'humanitaire aujourd'hui. Et j'ai autour de la table Denis Viennot, l'ancien président de Caritas Internationalis, Franck Renaudin de l'ONG Entrepreneurs du Monde et Philippe Lagrange, juriste international. Voilà. Alors tous les trois, on évoquait avant la pause cette difficulté ou cette légitimité finalement pour des organismes privés de pouvoir intervenir dans les pays, au cœur de la politique des pays. Alors c'est vrai que l'humanitaire a été souvent sous le feu de la critique. Moi je pense qu'il y a eu des grands débats. Alors c'était au sujet de grandes ONG, l'ARC. Le débat de l'ARC en France a posé beaucoup de questions sur la confiance à donner des fonds privés pour des œuvres humanitaires, que ce soit ici ou à l'étranger. Les épisodes un peu curieux de l'Arche de Zoé, il y a 2 ans au Darfour, avec ses enfants qu'on voulait emporter pour les sauver, etc., alors que finalement, ce n'était pas si clair que ça. Il y a eu aussi des déclarations un peu curieuses de MSF au cœur du tsunami, a dit ne nous envoyez plus d'argent, etc. Alors finalement, dans le grand public, on peut se demander si tout est vraiment clair. Est-ce qu'il y a une transparence suffisante? Est-ce qu'on peut faire confiance à cet humanitaire? Est-ce que c'est... Voilà. Alors vous, Franck Renaudin, dans le concret d'une ONG... comme vous, comme entrepreneur du monde, je veux dire, est-ce que ces questions, ces critiques, vous les entendez aussi ?
Oui, enfin, on les entend. Bien sûr, on sent que les donateurs ont besoin d'avoir confiance. Déjà, enfin, vous parliez de MSF. Je crois qu'il faut rendre hommage à ce qu'avait fait MSF au moment du tsunami en disant qu'ils avaient reçu assez de financement et on ne le voit que trop rarement. Je pense que pour Haïti, il y a eu énormément de collectes de fonds récemment et je crois qu'il y a... Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont aujourd'hui un petit peu embarrassés pour savoir comment ils vont mettre en œuvre de façon intelligente des programmes à partir de cet argent qui a été récolté.
Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent pour l'urgence, mais pas assez du coup pour la reconstruction, pour la durée? Alors
effectivement, sous l'effet du coup de cœur, de l'émotion, il y a un afflux d'argent qui arrive. Et puis après, voilà, à court terme, il y a ce qu'il faut. Puis sur la durée, on est un peu plus embêté. Parce que notamment des ONG urgentistes se retrouvent avec des sommes assez considérables, alors qu'elles n'ont pas vocation forcément à rester dans le pays au-delà de 3 mois, 6 mois. En Haïti, il faut savoir qu'il y a pas mal d'ONG urgentistes qui justement réduisent leur champ d'action de façon assez sensible 6 mois après le séisme. Voilà, nous comment, au quotidien, comment on le vit ? Tout simplement, ayant conscience de ces débats, on a pris les devants et on est allé notamment à la rencontre du comité de la charte qui donne le label don en confiance. Et on a fait la démarche, bien qu'on soit de très petite taille par rapport à plein d'autres organisations, pour essayer d'obtenir ce label. Donc en 2009, on a eu tout un processus d'audit, on peut l'appeler comme ça, hein, de la part du comité de la charte, qui a permis qu'on obtienne le label début 2010 et qui nous permet aujourd'hui d'affirmer à nos donateurs, ben voilà, quand on vous dit que sur 100 euros, il y en a 9 qui partiront en frais administratifs, que le reste partira sur le terrain et que ça partira sur le programme dont on vous a parlé, ça permet de le certifier par cet organisme. Et d'ailleurs, on sent que par rapport à nos donateurs, ça a un rôle important d'avoir ce label.
C'est important, la confiance. Dans un réseau comme les Caritas, comment on gère cette question? Elle vient aussi, cette question de la confiance par rapport à l'usage de l'argent, cette question de la pertinence aussi de l'action et dans la durée, parce que vous êtes à la fois, vous pouvez être dans l'urgence, mais aussi évidemment dans l'accompagnement, dans la durée.
Moi, je suis un fanatique de la corruption. J'adore, je dirais, ce sujet-là. Et je ne sais pas pour rien que dans mon bouquin, il y a un chapitre sur la corruption en donnant des exemples extrêmement tristes dans le réseau Caritas. Il n'y a pas que ça, il y a des choses bien aussi. Mais il faut être réaliste. Enfin, dès que vous avez des hommes et des femmes dans une pièce, il y a de la corruption potentielle. Donc le problème, c'est comment on fait face à la corruption. Il y a deux niveaux, à mon avis. Il y a le niveau de la France, comité de la charte, ce mécanisme d'audit, commissaire aux comptes, etc. Bon, ça n'empêche pas que dans des associations françaises, sans parler de l'ARC, il y a forcément de temps en temps un comptable ou un concierge ou un cadre qui pique dans la caisse. Si je vous dis le contraire, personne ne me croira. Donc c'est comment est-ce qu'on s'organise pour que, je dirais, chez Madame Bettencourt comme au Secours catholique, les choses soient faites de façon propre. Et les gens qui prétendent que c'est 100% propre partout, c'est vraiment des fumistes. Enfin, je veux dire, toute personne qui repeint sa cuisine le dimanche sait qu'il n'y a pas 100% de la peinture qui va sur le mur. À la fin,